Venons-en à Rousseau. L'autre fois, ce qui est très lointain, j'avais dressé à grands traits qui était Rousseau, et notamment les étapes de sa vie. Je vais rafraîchir la mémoire de tous 5 minutes. Je crois qu'on avait à peine entamé le texte du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. Là, on va vraiment faire une lecture ligne à ligne à partir des extraits que je vous ai donnés de ce texte aujourd'hui et la fois prochaine. Je crois que ça nous prendra les 2 séances pour finir. Voilà. Sur Rousseau, je rappelle brièvement, parce que le début juillet est très lointain, les vacances sont passées là-dessus, puis certains d'entre vous n'étaient pas forcément là. Je rappelle rapidement pour resituer Rousseau, hein. Donc, il est né en 1712, il est mort en 1778, donc vous voyez, c'est un homme du XVIIIe siècle. Un homme du XVIIIe siècle qui est mort, cela dit, avant, ce qui conclut ce siècle, la Révolution française. On l'assimile aux Lumières, c'est-à-dire à la philosophie des Lumières, c'est-à-dire à la raison, à l'avènement de la raison contre l'obscurantisme religieux, pour le dire de façon caricaturale. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je dirais que par beaucoup d'aspects, et notamment par son écriture, Rousseau est peut-être un homme du XVIIe, profondément. Je fais exprès de tordre un peu la chose. Un homme du XVIIe, notamment par son écriture, qui est une très belle langue, très très belle langue, qui est, me semble-t-il, vraiment dans la continuité de la langue du XVIIe, et notamment d'un Pascal, par exemple. Ou des gens de Port-Royal qu'on avait abordés, donc c'est pour ça que je me permets le lien. D'autre part, sa philosophie, notamment sa philosophie morale, est très marquée par ses lectures de Pascal et Port-Royal. Et en particulier son anthropologie, son analyse critique de la société contemporaine, de sa contemporanéité à lui, ressemble étrangement à la critique acérée d'un Pascal. Il y a vraiment une continuité. Après, il y a évidemment bien des différences, en particulier Rousseau s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appellerait, pour le dire vite, la philosophie politique, comment fonder une société donc qui tente d'être juste, et de retrouver un principe qui lui est cher, l'égalité parmi les hommes, d'où je pense notamment au contrat social, mais qui est cette préoccupation de Rousseau se trouve traversée bien de ses livres, y compris les 1000, qui est le traité de l'éducation, qui est aussi voilà ce qu'un Pascal n'aborde pas, sauf par petites touches frontalement. Bref, Rousseau, on va le voir, et particulièrement par rapport au texte qui nous apporte là, est l'objet de beaucoup de malentendus et de contresens, ce qui opacifie son approche, parce qu'on l'a lu de façon à la fois simpliste et faussée, ce qui aboutit à des critiques un peu ironiques à la Voltaire d'ailleurs, contre Rousseau, qui ne correspondent pas à la fois à la simplicité et à la complexité de la pensée de Rousseau. Rousseau est à la fois simple à lire, ce n'est pas, contrairement à d'autres philosophes, y compris du XVIIIe, un discours philosophique compliqué, jargonneux, il reste d'ailleurs très proche d'une langue littéraire. Et en même temps, sa pensée, et c'est peut-être ça qui trompe, sa simplicité, est très subtile, et on a tout fait de la caricaturer. Je pense notamment, mais on y reviendra, sur l'homme est né bon, l'homme naturellement est bon. Voilà un exemple de contresens. On pense que Rousseau serait un anthropologue ou un ethnologue ou un historien de la préhistoire et qu'il aurait pu établir le fait que les hommes primitifs étaient bons. C'est pas du tout ça sa démarche, mais on va y revenir. Voilà, sur plein de sujets, Rousseau fait l'objet de contresens, également sur son assimilation à la philosophie des Lumières. C'est une philosophie qui, au fond, serait purement un rationalisme, serait purement une philosophie qui mettrait en avant, comme pierre angulaire de l'édifice, la raison. Donc on cite Montesquieu, on cite les hommes de l'encyclopédie, si vous voulez. L'encyclopédie Diderot, d'Alembert, etc. On cite Voltaire, Montesquieu, et on assimile Rousseau à ce courant de pensée. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Rousseau, en effet, est quelqu'un qui tient la corde raide, qui tient les deux bouts, qui pense à la fois, effectivement, une certaine raison, et qui, de ce point de vue-là, effectivement, est dans le combat contre l'obscurantisme religieux, incontestablement, bien que Rousseau reste attaché, malgré tout, à une foi religieuse, mais c'est pas tant cela qui transparaît dans sa pensée. Rousseau est en même temps un homme qui a analysé et qui prend en compte le fait spirituel, le fait que l'homme est doté d'une âme et l'âme humaine est tout autant que la raison ce qui dirige et ce qui doit diriger l'homme dans ses conduites de vie. D'autre part, Rousseau est très conscient de la limite de la raison dans la conduite humaine. Il sait que la raison bute sur à la fois les passions humaines. Rousseau est très conscient et il en fait des analyses très précises. En ce sens-là, on pourrait dire que Rousseau, par bien des aspects, est un précurseur de la psychanalyse, par beaucoup d'aspects. Parce que il est très conscient de la puissance de l'émotion, de la sensibilité, de la passion humaine, et qui apporte une limite, qui est une limitation d'une approche purement rationnelle de l'homme. Quoi. Voilà, donc c'est en ce sens-là aussi que souvent on fait un contresens réducteur en disant « c'est un philosophe des Lumières ». Et d'ailleurs, je préciserai que assez rapidement, il a collaboré à la demande de Diderot, il a été un ami de Diderot qui l'a défendu, qu'il est allé voir en prison quand Diderot s'est trouvé incarcéré à Vincennes, l'ancien fort de Vincennes où il y avait le roi Louis IX, dit Saint-Louis, c'était devenu une prison. Et Rousseau est allé visiter son ami Diderot. Donc effectivement, il y avait une proximité humaine, amicale, avec notamment Diderot, et il a collaboré, il a répondu à des commandes de Diderot et d'Alembert, et il a écrit plusieurs articles, notamment sur la musique, pour l'encyclopédie. Mais en même temps, assez vite, un fossé, une césure s'est établie, y compris affective, humaine, amicale, avec des gens comme Diderot, d'Alembert, et tous les gens, tous les encyclopédistes. Grimm en particulier, alors c'est pas les frères Grimm, c'est un aïeul des frères Grimm qui est un grand contributeur, c'est un diplomate allemand, un grand contributeur aussi de l'encyclopédie. Tous ces gens-là se sont violemment retournés contre Rousseau. Et le plus méchant, ça a été Voltaire. Et Voltaire qui a été pour beaucoup dans l'ostracisation de Rousseau, qui a dû quitter la France et Paris, parce qu'il avait été averti qu'il risquait de se retrouver en prison. Et c'est là l'épisode final de sa vie. En Suisse, il retourne en Suisse. C'est pas si simple que ça, parce qu'en Suisse, il ne sera pas, bien que citoyen de Genève, accueilli à bras ouverts, parce que les Genevois, la municipalité de Genève va aussi répandre beaucoup d'animosité contre Rousseau par rapport à ses écrits, notamment sur la religion et le protestantisme. Et donc, par exemple, quand il se trouve se réfugier dans le Jura suisse, notamment à Mautier, vous savez, Mautier, c'est une petite ville, une bourgade du Jura suisse, il devra quitter sa maison précipitamment parce que les habitants lui enverront des pierres. Et il finit donc dans l'île au large du lac de Biel, ou de Bienne, C'est une ville bilingue. Et c'est donc sur cette île que Rousseau écrit son dernier grand texte, qui est un chef-d'œuvre littéraire aussi de la pensée, qui sont les rêveries du promeneur solitaire. S'il y a un livre, si vous n'avez pas lu Rousseau et que vous avez envie d'attaquer Rousseau, lisez ce livre, c'est ce que je recommanderais en premier, c'est magnifique. C'est facile à lire, c'est littéraire, vraiment, c'est des méditations. Mais en même temps qui met en œuvre une pensée, c'est un retour sur son existence, etc. Alors, à ce sujet, un autre contresens que l'on fait couramment sur Rousseau et qui fait l'objet de railleries, on dit, mais c'est un garçon qui était un peu malade de la tête, il était parano. C'est un paranoïaque, c'est un cas psychiatrique carrément, il y en a qui osent dire ça. Je suis désolé, mais Rousseau, et on le voit bien à travers les confessions qui retracent toute sa vie, un peu sur le modèle d'Augustin d'Hippone, dit saint Augustin, et qui est la première tentative contemporaine de dire, non pas d'autofiction, comme le terme est à la mode aujourd'hui, mais d'essayer de dire sa propre vérité. Alors on pourra dire c'est forcément une fiction. Rousseau est conscient de cela. Il n'est pas naïf. Il sait que mettre en récit, à partir notamment de sa mémoire, de son existence, forcément, le récit est fictionnel par, je dirais presque, essence. Mais néanmoins, Rousseau a cette exigence morale d'un bout à l'autre de vérité sur lui-même, qui veut dire que on peut quand même se fier à bien des propos qu'il raconte concernant les épisodes de sa vie. Rousseau n'est pas un parano, par définition. On peut dire qu'il est devenu un peu parano au sens familier du terme, pas au sens psychiatrique du terme, ce qui change quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, le discours psychanalytique s'est tellement diffusé qu'il s'est complètement corrompu, parce qu'on dit il est parano, quoi. Mais ça veut rien dire, hein, d'une certaine manière. Rousseau est parano au sens familier du terme, et on le saurait à moins, et quiconque le saurait aussi, parce que effectivement, il a fait l'objet quand même d'attaques très vives, qui ont été des attaques intellectuelles, humaines, notamment de ses amis comme Diderot, etc. Enfin, de l'attaque venant des philosophes des Lumières, précisément. Et en particulier de Voltaire, qui a été le plus hargneux, le plus méchant, mais Voltaire est un méchant, en fait. Par contre, on peut dire que Voltaire, ontologiquement, c'est un méchant. Ce qui s'est joué, notamment, dans l'acrimonie de Voltaire par rapport, je l'avais déjà dit, mais je le répète, parce que c'est un épisode qui est important, on n'aura pas le temps de lire ces textes-là, mais ce qui a joué un rôle, c'est que, au fond, à son insu, Rousseau a vexé Voltaire profondément. À propos du fameux épisode du tremblement de terre de Lisbonne, hein, je rappelle ça à tout le monde, le tremblement de terre de Lisbonne, c'est le premier fait divers catastrophique, la première catastrophe qui est un écho, un retentissement mondial, comme il y en a aujourd'hui, dès qu'il y a une catastrophe aujourd'hui, la planète entière le sait, les médias s'en emparent et ça disserte à n'en plus finir. C'est un phénomène récent, ça n'existait pas avant ça. Et on peut dire, les historiens en tout cas s'accordent là-dessus, que le premier événement catastrophique qui est un écho mondial, alors mondial au sens du 18e bien sûr, c'est ce tremblement de terre de Lisbonne qui a produit des milliers de morts et qui a déplacé une partie de la ville. Si vous êtes allé à Lisbonne, vous savez, la tour dont le nom m'échappe, de Belém, voilà, se retrouve dans l'eau. Elle est dans l'eau du Tage. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, au départ, c'est pas une tour. C'est dire que le tremblement de terre a été quand même quelque chose d'assez catastrophique. Et donc, vous savez, à partir de là, Voltaire écrit un texte en disant « Je ne peux plus croire qu'il y ait un grand architecte. » Parce que si, donc c'est un dieu auquel il adhérait d'une certaine manière. Vous savez, de sa théorie du grand architecte. Je ne peux plus y croire parce qu'un grand architecte n'aurait pas créé ce chaos. Ponce, dans une lettre de Rousseau, est à mes yeux formidable. Elle préconise notre pensée actuelle. C'est une pensée, on pourrait dire, déjà écolo, profondément écolo, mais profondément au sens qu'il y a une profondeur. Rousseau dit à Voltaire, le grand architecte ou Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est la faute des hommes. C'est la faute de la concentration urbaine, de la surpopulation urbaine et du fait qu'on urbanise sur des zones où on ne devrait pas urbaniser. C'est exactement le discours actuel. C'est un double discours actuel. Vous allez voir d'ailleurs dans le texte qu'on va lire en commun, il y revient sur le problème de la surpopulation. Rousseau est probablement le premier qui a attiré l'attention sur les dangers pour une société de la surpopulation, c'est-à-dire de la concentration dans des grosses métropoles urbaines. Il était contre cela. Il percevait toutes les dérives que ça peut... Ben oui, le fondement réel, c'est que s'il n'y avait pas eu cette concentration urbaine à cet endroit-là, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Enfin, pas de la même... Il y aurait eu le tremblement de terre, mais c'est pas... Oui, alors, en plus, mais là, à l'époque, je ne crois pas qu'il y avait ce savoir-là qui permettait de dire il ne fallait pas construire Lisbonne à cet endroit sismique important. Je crois que c'est... Enfin, c'est... Autant que je sache, dans les débats qui ont eu lieu à l'époque, ce n'était pas une question qui avait été abordée. Voilà, et je pense que cette réponse de Rousseau, enfin, on le sait, a profondément vexé Voltaire et que c'est, me semble-t-il, une des causes profondes de sa haine, parce que c'est devenu une haine. Après, bien sûr, sur le fond, c'est deux pensées qui ne peuvent pas se concilier, mais et deux types d'hommes, deux tempéraments humains qui ne peuvent pas se concilier. Quand on risque la prison, quand on manque de se faire tuer à Ménilmontant par une diligence accompagnée de molosses qui arrive à toute allure et qu'un des molosses se jette sur lui et qu'il est gravement mentionné, traumatisme crânien assez grave. Et c'est, il raconte cet épisode dans une des rêveries du promeneur solitaire, dans une des promenades justement. Quand on a été l'objet de tout cela, qu'on a risqué la prison à Paris et qu'on doit fuir Paris, sa maison est lapidée à moitié, évidemment, on serait parano, entre guillemets, à moins, encore une fois. Bref, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est quand même pour dire tous les entendus et les contresens qui ont joué, qui ont pesé sur Rousseau jusqu'aujourd'hui et qui font qu'on a du mal à aborder son œuvre de façon simple, parce qu'il y a des écrans, quoi. Il y a beaucoup d'écrans comme cela sur qui opacifient le regard qu'on peut porter sur l'homme et surtout ses écrits. Voilà, je n'insiste pas plus, sauf s'il y a des questions sur sa biographie que j'avais abordée l'autre fois. Bon, c'est des choses qu'on peut lire. Je rappellerai simplement, pour que tout le monde les ait en tête, sa bibliographie quand même. Il n'a pas écrit énormément de textes ou de livres majeurs. Dire simplement que Rousseau s'est intéressé d'abord à la musique, c'est important dans la pensée. D'ailleurs, on va retrouver ça chez d'autres après. Je pense à Nietzsche. Je pense que le rapport à la musique n'est pas sans incidence sur la façon de construire une pensée. C'est très clair chez Nietzsche. Vous savez que Nietzsche a composé des pièces de musique qui sont trouvables aujourd'hui en disque et qui ont été jouées notamment par un pianiste français qui s'appelle Alain Kremski et qui a publié toutes les pièces pour piano de Nietzsche. Il y a des œuvres d'orchestre de chant. Honnêtement, musicalement, ce n'est pas exceptionnel. Voilà. Mais ce n'est pas ça la question. Rousseau écrit de la musique. Il a fait ce fameux opéra qui a eu un certain succès. Et puis, c'est un théoricien de la musique. Après, il comprend qu'il n'arrivera pas à vivre de musique et il abandonne la composition musicale, bref, et il s'orientera vers uniquement les œuvres de la pensée. Kant, c'est après. D'ailleurs, on peut montrer pour le coup, on peut montrer qu'il y a un lien. Kant est un lecteur de Rousseau et apprécier Rousseau. Il y a un lien d'ailleurs entre Rousseau et Kant qui vient après, donc. Sur un point précis, c'est que Kant fait une critique de la raison pure. C'est-à-dire que Kant, à la fois, est un philosophe des Lumières, d'une certaine manière, et en même temps, sa pensée philosophique montre les limites des Lumières. Alors, chez Kant, ça va être la foi. La limite, c'est la foi, chez Kant. C'est en ce sens-là que ça se distingue de Rousseau. Mais il y a des points communs. Mais pour en revenir à l'origine des Lumières, alors c'est toujours pareil. La question des origines, c'est le travail que fait Michel Foucault bien après. C'est un travail d'archéologie des idées pour voir. Vous savez, Rousseau, il dit, selon les époques, il y a des ruptures de socle de pensée. C'est ce qu'il appelle l'épistémé, Foucault. Donc il y a des changements d'épistémé, c'est-à-dire en gros de fondement d'une façon de penser propre à une période. Il faut en faire l'archéologie pour cela. Pour Foucault, la rupture c'est le 17e. Il ne fait pas de rupture au 18e, c'est l'avènement de l'âge classique, ce qu'il appelle l'âge classique. Et qu'il, voilà, l'épistémé classique se met en place au 17e siècle pour Foucault. Après, ça, c'est contestable par d'autres, parce que on peut toujours trouver des racines antérieures. La seule chose que j'ajouterais, c'est que probablement que la source première de la philosophie des Lumières, c'est probablement l'avènement de la philosophie du droit naturel. Et la notion de droit naturel et de loi naturelle. Donc ça, on va retrouver ça par exemple chez un penseur alors du 17e qui va inspirer Rousseau en ce sens que Rousseau, vous allez voir dans le texte qu'on aborde le critique largement, c'est Thomas Hobbes. Hobbes et notamment son Léviathan, qui est une œuvre majeure. Donc chez Hobbes, qui veut fonder une société justement de façon rationnelle sur le contrat, on va retrouver quelque chose de l'ordre de la théorie du droit naturel. Donc c'est déjà quelque chose qui est fondé en raison. C'est une anthropologie qui fait qu'on cherche ce qu'est la nature de l'homme pour fonder une société. Donc ça, c'est une démarche qui fait appel à la raison et non plus du tout aux croyances religieuses, par exemple. Donc là, la rupture s'opère déjà. Un autre penseur du 17e aussi, qui est important, qu'on connaît mieux, enfin, j'en avais déjà parlé, mais il y a longtemps, c'est un Hollandais qui a un nom français, c'est Mandeville, qui a écrit sa fameuse fable des abeilles, et qu'on peut considérer, pour parler trop vite, comme le fondateur de l'utilitarisme, de la pensée de l'utilitarisme. Et il pense, c'est ça que veut dire sa fable, que l'humain obéit à une rationalité, donc on est bien dans la raison, qui repose sur le calcul d'intérêt. L'homme fait un calcul entre l'optimisation de son intérêt et la minoration des inconvénients, des désutilités, dit-il. Donc il y a des, par rapport à des décisions dans les situations de la vie, on soupèse les désutilités, les charges, les inconvénients, et l'utilité maximale, c'est-à-dire l'intérêt optimal. Voilà, ça c'est la pensée de Mandeville, qui est une pensée incontestablement fondée sur la raison. Le calcul, par définition, ça fait appel au registre de la raison. Voilà. Donc, vous voyez, les Lumières ont un fondement qui est antérieur à ce qu'on appelle le mouvement des Lumières au 18e, qui est vraiment tout ce qui est la théorie du droit naturel, et qui va amener, pour ce qui est de la philosophie politique, la notion de contrat, de société contractuelle, comme pierre angulaire, ou plutôt fondement, de ce qui peut être l'être ensemble des hommes. C'est toujours pareil. C'est forcément, eux n'avaient pas le sentiment d'appartenir à un groupe qui se revendiquait comme les Lumières, simplement, il y avait des affinités intellectuelles aussi amicales entre eux, quoi. Voilà, donc c'était les philosophes qui combattaient contre l'obscurantisme religieux, en gros, pour mettre en avant la raison. C'est en ce sens-là que ça a joué un rôle déterminant au moment de la Révolution française, par exemple. Le culte à l'être suprême, c'est la raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il faut compliquer les choses. C'est pas pour autant qu'il y avait un rejet total du fait religieux d'une conscience spirituelle ou même religieuse. Par exemple, c'est clair que l'être suprême, c'est la transposition de l'idée d'un Dieu. Le grand architecte chez Voltaire, c'est le premier principe. C'est pour ça que j'insistais beaucoup quand on abordait Pascal pour dire attention, ne nous bloquons pas sur le discours religieux catholique où il y a Dieu et Jésus. Transposons ça en termes audibles aujourd'hui, qui rejoignent les platoniciens, la question d'un premier principe, des premiers principes. Et c'est vrai que si on réfléchit bien, je pense qu'il n'y a pas de philosophie morale en général, même si on est profondément athée. Il n'y a pas de philosophie morale et il n'y a pas de philosophie tout court. Je pense même qu'il n'y a pas de philosophie politique si on ne part pas d'un postulat qui est qu'il y a un premier principe. Si vous voulez, le premier principe, au sens spirituel du terme, dans le sens de Platon, dans le sens des néoplatoniciens. Évidemment, moi je suis très influencé en disant ça par Damasius, qui est le dernier philosophe néoplatonicien que j'aime citer, mais qui est très difficile à lire, et qui a écrit ce livre « Des premiers principes », traduit en français « Des premiers principes »,« Aporée et résolution ». C'est celui qui termine dans l'Antiquité, il est dans l'Antiquité tardive, au 5e siècle, il termine tout l'élan platonicien. C'est le dernier des philosophes platoniciens ou néo-platoniciens qui essaie de penser jusqu'au bout, y compris les impasses, d'où le sous-titre en français de son livre, mais qui est la traduction directe du grec, c'est pas une invention des traducteurs français, « Aporie et résolution ». C'est impasse, et que, il analyse de façon critique toutes les impasses de Platon et les impasses d'Aristote. Parce que les néo-platoniciens s'inspirent aussi largement d'Aristote. Aristote qui n'est pas pensable sans Platon, hein, il est dans la continuité de Platon aussi à Aristote. Damasius, je ne peux pas la développer, on va s'embarquer ailleurs, la pensée de Damasius qui est une pensée assez complexe. Ceux qui sont audacieux, lisez des premiers principes, quoi, voilà. C'est un livre qui fait 900 pages quand même, je tiens à préciser, en traduction française. Et c'est profondément chez Damasius la construction d'une ontologie, c'est-à-dire d'une théorie de l'être, de ce qui est, et sur ce présupposé qu'il y a forcément un premier principe. Et chez Damasius, le premier principe, c'est l'un. L'un bien, il dit même l'un trait d'union bien. C'est-à-dire que le monde ne peut exister et ne peut être pensé si on ne pose pas qu'il y a le principe de tout qui est l'un bien. Il le nomme comme ça. Non, c'est pas incompatible. Platon, on va dire que c'est un polythéiste, si on veut un païen. Mais Platon, il y a ce premier principe qui est posé. C'est notamment le Parménide de Platon. Si vous voulez, on peut prendre autrement. C'est un problème de la pensée humaine qui est en cause, fondamentalement. Mais encore une fois, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on pourra y revenir régulièrement. C'est le problème de la pensée humaine et je prendrai le registre des mathématiques. Théorie mathématique n'existe pas, n'est pas pensable, n'est pas possible si on ne pose pas au moins un axiome ou un postulat au départ. C'est pas possible. Et c'est les deux. C'est l'unité première, quoi. Alors, ça peut être l'origine. Oui. C'est ce qui, chez Damasius, il y a une notion centrale qu'il appelle pro-odos en grec. Pro-odos. Pro-odos, c'est un très beau mot grec qui veut dire, qu'on peut traduire par procession. Les processions, immédiatement, pour dans nos oreilles, il y a une connotation religieuse. Sauf si on entend une procession au sens d'une manif. Tiens, c'est une manif. En fait, prodos, pro en grec, c'est la préposition qui veut dire en avant. Voilà, avancer. Le mouvement en avant. D'ailleurs, quand on dit en français, les pro-Macron. Et odos, c'est la route. Qui a donné le mot méthode. Méthode, c'est un très beau mot aussi. En grec, c'est méta-odos. C'est méta, alors c'est ce qui permet d'aller au-delà. Donc méta-odos, c'est un chemin qui contourne l'obstacle pour aller au-delà. C'est un détour, si vous voulez. La méthode, c'est un détour. Et ça donne profondément ce qu'est la nécessité de la méthode. La méthode, c'est un détour. C'est pour ça que les pensées autoroutes sont des pensées stériles. Parce que forcément, on pense si on est confronté à des obstacles. Et un obstacle, eh ben, il faut le contourner. Alors, les prétentieux disent, on va l'écraser, on va l'aplatir, c'est la pensée bulldozer, et la pensée bulldozer, c'est on ferait, par exemple. C'est une pensée nulle. Quand on aplatit tous les obstacles, c'est une pensée faible, une pensée nulle, je suis désolé. La pensée prend en compte les montagnes que sont les obstacles pour que l'esprit accède à la question de la vérité, c'est quoi être vrai, c'est quoi une proposition vraie. Pour répondre à cela, il y a plein d'obstacles. Et les obstacles, on ne peut pas les aplatir, c'est impossible, c'est ça la limite de l'homme. On peut les contourner, et on les contourne grâce à la méthode prodos, procession. Ce que Damasius et d'autres néoplatoniciens avant lui explique, vous savez que ça rejoint, c'est l'origine du monde au fond, et c'est pas si loin de rejoindre les théories actuelles des astrophysiciens quant à l'origine du monde, entre nous soit dit. Ils ne peuvent pas faire l'économie, c'est pour ça que les plus grands astrophysiciens sont des philosophes. Ils ne peuvent pas échapper à ça. Je pense notamment à, qu'on l'aime ou pas, à Aurélien Barreau, qui est un des grands astrophysiciens qui pense les multivers, le fait que, bon, et qui travaille beaucoup sur le temps court, sur les trous noirs, etc., et qui a fait tout un travail, qui est aussi un poète, qui écrit de la poésie, ce qui vaut ce qu'elle vaut, c'est pas le sujet là, mais qui surtout qui a fait un travail de philosophie avec un des derniers grands philosophes contemporains, qui est Jean-Luc Nancy. Pourquoi? Parce que si l'expérience sensible première, c'est le chaos. Le chaos. C'est la matière, on a affaire au chaos de la matière, le chaos en grec, qui est une notion centrale. La multiplicité infinie, qui semble d'un prime abord être un grouillement, un foisonnement dans tous les sens de matière, cette multiplicité-là, si on en reste à cela sensiblement, elle est impensable, on peut rien en dire. On peut rien en dire. La question qui se pose, c'est est-ce que cette multiplicité, ce chaos, peut être inspiré, je fais exprès d'utiliser le mot inspiré, peut obéir d'une certaine manière à un certain principe d'ordre. C'est le problème du logos en grec. Le logos, c'est ça avant d'être un discours. Le logos, est-ce qu'il y a un principe d'ordre qui fait que quelque chose s'organise? Et si on dit ça, et c'est parce qu'on pense qu'il y a un principe d'ordre, qu'à partir de là, il peut y avoir une pensée, et une pensée du monde, et de l'humain. Si on en reste à la pluralité, à la multiplicité infinie, foisonnante, on ne peut qu'être dans le chaos. Ce qui fait que les Grecs pensent profondément que le monde est organisé parce qu'il obéit à un ordre et qu'il peut être beau, et c'est la profondeur du mot cosmos. Et c'est ce qui explique que cosmos donne en français aussi bien l'univers, le cosmos, le monde, mais que ça donne aussi cosmétique. C'est le même mot. Donc tout ce qui est l'art de la beauté, pourquoi? Parce que si c'est beau, si on a l'expérience du beau, les Grecs pensent que nécessairement c'est parce que ça obéit à une forme d'ordre, c'est qu'il y a un logos, une loi. Donc à partir de là, on est forcément amené à postuler qu'il y a un premier principe. On n'est pas obligé aussitôt de dire c'est Dieu avec sa barbe, notre père et qu'un fils Jésus. On n'est pas obligé d'en arriver là. C'est une accélération raccourcie de la pensée qui ampute la pensée. On n'est pas obligé de penser comme ça. On a le droit de penser comme ça. Pourquoi on peut penser comme ça? Après, c'est des décisions personnelles en toute liberté. Mais on peut penser ça tout en restant athée aussi. L'un bien que pense, c'est l'être premier, hein, c'est rien d'autre que ça. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas rentrer là-dedans dans le détail. Voilà, donc tout ceci pour dire qu'il faut se méfier là aussi des simplifications et des coupures, des catégorisations trop faciles. Il n'y aurait pas d'un côté les Lumières, un bloc homogène qui ne penserait qu'en termes de raison, et de l'autre côté l'obscurantisme qui penserait en termes de spiritualité. C'est pareil, le mot spiritualité est un mot dangereux, quoi. Aujourd'hui, parce qu'on pense aussitôt, on pense presque au gris-gris aujourd'hui. Non, spirituel, c'est ce qui se rattache à la question de l'esprit. Il faut faire attention à toutes ces simplifications et tout. Par contre, ce qui est réel, c'est que les philosophes dits des Lumières sont dans un combat réel qui va se poursuivre tout au long du 19e, contre la puissance politique et intellectuelle de l'Église en France. C'est-à-dire du catholicisme, très clairement, avec toutes les répercussions que ça a en termes de politique, moraux, éducatifs, et ainsi de suite. Mais que ce combat existe, c'est pas pour autant, encore une fois, qu'il y a cette césure simple et facile entre la raison pure, comme aurait dit, Kant, et d'un autre côté, le flou obscur du gris-gris, quoi. Bon, venons-en au texte. Donc, le texte, on va le lire, lecture partagée, donc je le lis au fur et à mesure. Je ferai des commentaires au fur et à mesure si c'est besoin, et n'hésitez pas à intervenir à tout moment, à la fois pour des précisions, des questions, des clarifications, et aussi pour des objections, de la polémique. La polémique à condition que ça soit une vraie polémique, pas comme on voit au journal télévisé. Pour les Grecs, la polémique c'était central. Et que en grec, il y a un mot très fort d'où vient polémique qui est polémos. Et pour les Grecs, on trouve ça chez Platon par exemple, polémos, c'est un principe nécessaire qui organise la cité dans son harmonie. Or, polémos, on le traduit couramment par guerre, disons plutôt conflit. Or, chez Platon, le conflit est moteur et nécessaire, c'est un principe d'harmonie. Ce texte, c'est un reader digest, si on veut, du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est donc un ensemble d'extraits que je vous propose, plus des notes propres à Rousseau. Hein. Rousseau a fait des longues notes que j'ai intégrées comme elles me paraissaient nécessaires par rapport à notre propos, que j'ai intégrées dans les textes. C'est signalé au fur et à mesure. C'est un choix non pas arbitraire, mais un choix subjectif, cet extrait qui n'avait pas la prétention de donner une image exhaustive et fidèle de ce discours sur les fondements, sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui est le titre officiel, enfin complet. Je n'ai fait de sélection de textes qu'à partir de notre interrogation de philosophie morale sur qu'est-ce qui peut fonder une morale. Donc, dans ce discours, il y a d'autres considérations que je n'ai pas prises en compte parce que ça s'éloignait de notre interrogation dans la poursuite de Pascal et de Port-Royal autour des fondements d'une morale, si vous voulez, pour le dire vite. Comment penser une cohérence entre penser et agir. À l'époque, le titre, faut pas penser comme aujourd'hui. Il n'y avait pas aujourd'hui un livre avec un titre pensé par l'auteur ou l'éditeur simple, etc. Ça n'existait pas. Donc en fait, les titres sont plus souvent, c'est ce qu'on trouve déjà chez Pascal ou autre, des espèces de propositions en entête d'un texte. C'est pas un titre au sens où on l'entend. Mais disons que l'usage depuis longtemps fait que on retient comme titre ce que je viens de dire. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est le titre retenu aujourd'hui couramment. Et Rousseau précise, ça c'est de lui, Jean-Jacques Rousseau, par Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. C'est ce qui explique que ça va démarrer par une adresse à la République de Genève et à ses citoyens. C'est important parce que, comme on dit aujourd'hui, il est important de... Non, aujourd'hui on le dit plus assez. Quand on disait dans les années 70, d'où tu parles? Et c'est important de préciser le lieu d'où l'on parle. Et Rousseau avait cette conscience-là, et donc se positionnait comme citoyen de Genève avec cette pré-introduction qui est l'adresse à la République de Genève, c'est une manière pour lui, en vérité, de se positionner, de dire d'où je parle. Voilà. Alors c'est important à l'époque parce que, d'une part, c'est reconnaître, alors que Rousseau, vous le savez, mais je ne reviens pas là-dessus, s'était converti du fait de Madame de Varins au catholicisme, mais la République de Genève, c'est une république protestante et, qui plus est, calviniste. D'accord, de Jean Calvin comme réformateur. Donc voilà, c'est pas neutre encore à l'époque, se positionner comme tel. Et l'autre élément essentiel, c'est que la République de Genève est la première en Europe moderne, la première tentative d'organisation démocratique d'une société, avec une république et un conseil, une municipalité élue. Effectivement, et notamment, comment il s'appelle, le fondateur de la sociologie française, mais bien après, à la fin du 19e, qui s'appelle Émile Durkheim, sa thèse de doctorat s'intitulait Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie. Effectivement. À l'époque, bon, alors je reprécise encore ça avant d'aller au texte, mais c'est important. À l'époque, il y avait une pratique qui est que les académies, ça existe encore, les académies. Ce qui est pas les académies de l'éducation nationale, hein, c'est pas l'administration. Ce sont des académies des sciences et des lettres, des arts des sciences et des lettres. Par exemple, c'est pour ceux qui l'ont déjà rencontré, d'ailleurs il fait une rencontre à l'issue de la première journée du stage écriture-photographie de Marc la semaine prochaine, samedi à 17h à Gaujac. C'est Yves Le Pestipon. Il est actuellement président de l'Académie des Arts, des Sciences et des Lettres de Toulouse. Voilà. Donc à l'époque, c'était beaucoup plus vivant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même des trucs un peu ringardisés. Mais à l'époque, c'était très vivant. Et les académies à l'époque proposaient des questions qui faisaient l'objet d'un concours, donc on concourait. Et si on gagnait, on gagnait en notoriété, on gagnait aussi de l'argent. Et Rousseau a commencé sa carrière littéraire et philosophique en répondant à des questions, alors de l'Académie en l'occurrence de Dijon, qui était extrêmement dynamique à l'époque. Effectivement, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, c'est une réponse à la question de l'Académie de Dijon. Je crois qu'on l'avait lu la dernière fois, l'adresse, je la relis rapidement pour mémoire et pour tous ceux, mais je la commenterai pas plus que ça. Adresse de l'adresse à la République de Genève. Pourrais-je oublier cette précieuse moitié de la République qui fait le bonheur de l'autre et dont la douceur et la sagesse y maintiennent la paix et les bonnes mœurs? Aimable et vertueuse citoyenne. Le sort de votre sexe sera toujours de gouverner le nôtre. Heureux quand votre chaste pouvoir exercé seulement dans l'union conjugale ne se fait sentir que pour la gloire de l'État et le bonheur public. Le seul commentaire que je referais, là aussi, à l'heure du féminisme contemporain, Rousseau est un précurseur quand même. Et c'est osé. C'est osé de s'adresser à la République de Genève, c'est-à-dire à la municipalité, en s'adressant en fait aux femmes dont aucune n'était membre de la municipalité de Genève. Hein. C'est très osé de sa part et ça indique quand même à la fois le courage politique, c'est un réel courage chez Rousseau, et sa pensée, l'aigu de sa pensée, qui le fait précurseur de beaucoup de choses, qui fait que, par-delà les siècles, Rousseau nous parle aujourd'hui. C'est pour ça que, moi, je défends la position, mais je ne suis pas le seul, loin de là, de l'atemporalité de la philosophie, ou de la historicité de la philosophie. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit, à mes yeux, la limite d'une approche historique, même historienne des choses, quoi. L'histoire, qui est sur le postulat d'un déroulé temporel des hommes et de la société et de la pensée, c'est pour ça que l'histoire des idées n'est pas la philosophie. L'histoire a une limite parce que des textes ou des œuvres ou des pensées très anciennes chronologiquement peuvent être complètement non contemporaines. La contemporanéité n'est pas liée à la concomitance. C'est féministe déjà parce qu'il choisit de s'adresser aux femmes, et ça fait étrangement penser à des textes qui étaient publiés à l'époque maoïste en France. Nous sommes la moitié du ciel. Hein. Pourquoi il précise Emma vertueuse, il insiste, le chasse-pouvoir, pourquoi il insiste là-dessus? Parce qu'à l'époque, c'est simple, les femmes, on les considérait en deux catégories, les mères de famille, ou alors les putes. Ah ben, clairement. Clairement. Les femmes de petite vie, les femmes... Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent les choses en ces termes-là. Bon, je continue. C'est ainsi que les femmes commandaient à Sparte. C'est ainsi que vous... Donc, Sparte, la cité athénienne, hein. Et c'est ainsi que vous méritez de commander à Genève. Je suis désolé, mais politiquement, voilà. Quel homme barbare pourrait résister à la voix de l'honneur et de la raison dans la bouche d'une tendre épouse ? Et qui ne mépriserait un vain luxe en voyant votre simple et modeste parure, qui par l'éclat qu'elle tient de vous, semble être la plus favorable à la beauté. C'est à vous de maintenir toujours, par votre aimable et innocente empire, et par votre esprit insinuant, l'amour des lois dans l'État et la concorde parmi les citoyens. De réunir par d'heureux mariages les familles divisées, et surtout de corriger par la persuasive douceur de vos leçons, et par les grâces modestes de votre entretien, les travers que nos jeunes gens vont prendre en d'autres pays, d'où, au lieu de tant de choses utiles dont ils pourraient profiter, il ne rapporte, avec un ton puéril et des airs ridicules pris parmi les femmes perdues. Il faut se restituer dans le contexte de l'époque. Oui, mais faut pas du coup conclure dans une réduction et un contresens que Rousseau était décidément archaïque, quoi. Que l'admiration de je ne sais quelle prétendue grandeur frivole dédommagement de la servitude qui ne vaudront jamais l'auguste liberté. C'est-à-dire qu'il se désole, c'était une pratique courante à l'époque, que les jeunes, à Genève, mais comme partout ailleurs, de familles un peu aisées, partaient à l'étranger découvrir, mais qu'est-ce qu'ils... à l'étranger, c'était pour se taper des filles, quoi, pour être clair. Parce qu'à Genève, ils ne pouvaient pas le faire. Et il se désole du fait que... Il n'est pas tiré de ses expériences quelque chose de plus utile et intelligent pour eux et la société. C'est tellement vrai, je ne prendrai pas des exemples actuels, mais le nombre dans les milieux littéraires, intellectuels, artistiques. Donc, pour vous dire que c'est une pratique courante, qu'on s'éloigne, on voyage, non pas pour se décentrer, se décaler, faire le détour, métaodos, mais pour, voilà, pour ça. Soyez donc toujours ce que vous êtes, les chastes gardiennes des mœurs et les doux liens de la paix. et continuer de faire valoir en toute occasion les droits du cœur et de la nature au profit du devoir et de la vertu. Alors, là, j'abandonne la question de rapport aux femmes et du féminisme. Juste une remarque qui est mine de rien essentielle, qui est cette phrase introduit le programme philosophique de Rousseau, son fondement de la morale. C'est-à-dire faire valoir en toute occasion les droits du cœur et de la nature au profit du devoir et de la vertu. Devoir et vertu, c'est donc la question morale qu'il pose. D'accord ? Trois termes qui sont les trois piliers qu'on peut percevoir là dans la philosophie morale de Rousseau. Le droit, les droits. Il utilise le mot droit, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une loi à fonder, il y a des principes, des règles à établir. Ce qui amènera sa pensée du contrat, de la société contractuelle, du contrat social. Et on voit là la filiation avec la philosophie du droit naturel, même s'il va complètement se détacher de Hobbes, par exemple, mais on y reviendra éventuellement plus tard. Cœur et nature. Cœur, c'est-à-dire Rousseau, on peut dire que c'est une philosophie du cœur. On pourrait dire tout aussi bien que c'est une philosophie de l'âme, ce qui est l'expression qui a été retenue par Paul Audy. Mais là, cœur et âme, c'est en l'occurrence très proche. C'est-à-dire que Rousseau pose la raison, mais à côté de la raison, il y a ce moteur constitutif de l'esprit humain qui n'est pas fait que de rationalité, qui est fait de sensibilité. Il utilise souvent ce mot « sensible ». Il utilise le mot « affect », beaucoup. Affection, l'affection. On pourrait dire affectif, mais à condition de ne pas l'entendre dans un sens dévoilé, comme on pourrait trop facilement le faire aujourd'hui, c'est un affectif. Non. Émotion, voilà. C'est-à-dire ce qu'il rassemble là dans le mot « cœur ». Il faut penser avec le cœur, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence du cœur. Rousseau en appelle à l'intelligence du cœur. Nature. Alors, on retrouve la philosophie du droit naturel, mais chez Rousseau, ça revêt une approche qui n'est pas qu'abstraite et désincarnée. Le rapport à la nature est d'abord un rapport lié à l'expérience sensible, à l'expérience des sens. C'est pour ça que Rousseau était un excellent botaniste. Il a fait des herbiers, il y a des collections d'herbiers, voilà. Ce rapport sensible à la nature végétale, animale aussi, est chez Rousseau essentiel. Et donc, la nature, pour Rousseau, a des choses à nous dire, en gros, pour le dire vite. Ce qui est extrêmement contemporain aussi, très contemporain aussi. Voilà, juste cela. Donc, cette dernière phrase est une indication très précise de ce qui va être des piliers de sa pensée morale et politique. Commençons maintenant la préface. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme. Et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes, connais-toi toi-même, il ne la rappelle pas, quand c'est entre crochets, selon la convention, c'est des choses hors texte que moi j'ai mises, pour préciser, hein, d'accord. Hein, c'est une convention d'édition. Les parenthèses appartiennent toujours à un texte de l'auteur. Les crochets, c'est des annotations extérieures à l'auteur. Donc, la seule inscription du temple de Delphes, connais-toi toi-même, contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Alors Rousseau s'attaque beaucoup aux moralistes à différents moments. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Rousseau, les moralistes, c'est qui ? C'est la calotte, comme on dirait. C'est les curés, comme on dirait. Voilà. Aussi, donc on voit, il pose d'emblée que pour fonder une morale humaine, c'est-à-dire une politique humaine, c'est-à-dire une société juste, égale, harmonieuse, il est nécessaire d'abord d'avoir une connaissance de l'essence de l'homme, de la nature, il dira, de l'homme. Il n'utilise pas le mot « essence » qui est un terme philosophique postérieur d'une certaine manière. Aussi, donc il faut, nécessité méthodologique, il faut d'abord avoir une connaissance de l'homme naturel, de la nature de l'homme en ce qu'il est dans sa nature. On peut dire que de ce point de vue-là, Rousseau est aussi le précurseur de la psychanalyse. Si. Aussi, je regarde le sujet de ce discours comme une des questions les plus intéressantes que la philosophie puisse proposer, et malheureusement pour nous, comme une des plus épineuses que les philosophes puissent résoudre. Car comment connaître leur variante d'un manuscrit, comment démêler la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on ne commence pas par les connaître eux-mêmes, d'accord? Et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature à travers tous les changements qu'à la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle et de démêler ce qu'il tient de son propre fond d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif. D'accord? Donc là, ce que pose Rousseau, c'est que la connaissance ontologique de l'homme, c'est-à-dire de sa nature, de son essence, de son être profond, c'est-à-dire de l'homme naturel, suppose une espèce d'archéologie, c'est-à-dire où il faut enlever toutes les couches qui se sont ajoutées à travers l'histoire humaine et des sociétés, et qui fait que l'homme s'est transformé peu à peu par rapport à ce qu'il nomme le progrès et les circonstances historiques. Donc, ce que propose Rousseau, c'est qu'il faut enlever comme une plure d'oignon toutes les couches de la plure pour trouver le noyau premier de l'homme, la nature de l'homme naturel. Semblable à la statue de Glaucus, alors Glaucus en latin c'est en latin, mais en grec c'est Glaucos, c'est un personnage qui est pas très intéressant, il était pêcheur. Par ruse, intelligence, il est devenu très très puissant. Et c'était quelqu'un de très calculateur et très intéressé. Et il a été transformé en une espèce de dieu marin, mais de dieu négatif. Semblable à l'institut figé, si vous voulez, de Glaucus, que le temps, la mer et les orages avaient tellement défiguré qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce, l'âme humaine, altérée au sein de la société par mille causes sans cesse renaissantes, par l'acquisition d'une multitude de connaissances et d'erreurs, par les changements arrivés à la constitution des corps et par le choc continuel des passions, a pu, pour ainsi dire, changer d'apparence au point d'être presque méconnaissable. Et l'on y retrouve, variante de manuscrit, on y trouve, plus, au lieu d'un être agissant toujours par des principes certains et invariables, au lieu de cette céleste et majestueuse simplicité dont son auteur l'avait empreinte, l'auteur c'est le créateur, hein, que le difforme contraste de la passion qui croit raisonner et de l'entendement en délire. C'est très fort et très beau, cette. C'est-à-dire que ce que on voit là, la limite que Rousseau accorde à la raison et au progrès des connaissances rationnelles à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'en fond, la raison est faible pour Rousseau. Et là, on retrouve directement ces lectures de Pascal, très clairement. La raison est faible. Et la raison peut délirer. L'entendement, c'est cette intelligence qui produit une connaissance rationnelle. C'est l'intellect. Ça peut délirer. Et pourquoi ça peut délirer? Parce que sans que l'homme s'en rende compte toujours, sa raison peut être guidée, non pas seulement par le logos, par elle-même, mais elle peut être guidée, manipulé par les passions, par les intérêts idéologiques, par les émotions, par toutes les traces qui se sont déposées. Oui, c'est trash pour Rousseau. Toutes les traces qui se sont déposées au fil des siècles et qui est que on est constitué dans une gangue D'où la statue de Glaucos, qui est que le plus souvent dans nos réflexes, dans nos façons de réagir, même dans notre sensibilité, et a fortiori dans notre façon de raisonner, on est pris dans cette gangue qui sont les dépôts des alluvions collectives successives. Et ça, pour Rousseau, c'est central, et c'est ce qu'il va appeler la corruption que la société amène de l'âme humaine. Les sociétés corrompent. Ce qui veut dire, disons-le d'emblée, mais attention à, encore une fois à pas faire de contresens, ce qui veut dire que pour Rousseau, le progrès, on va le voir, n'est pas en soi positif. C'est une donnée. Mais contrairement à l'idéologie du progrès qu'on a connue à partir du 19e, et dont on revient aujourd'hui totalement, aujourd'hui on parle beaucoup plus du dégât du progrès, etc., on n'est plus dans cette apologie idéologique du progrès. Et en ce sens-là, Rousseau, une fois de plus, est précurseur, est contemporain, nous est un contemporain immédiat. Et en particulier, cette difformité que pose Rousseau, c'est cette tension qui s'est instaurée à travers ces sédimentations entre les passions humaines, les rationnelles, si vous voulez, et la raison. Il y a une distorsion, une tension énorme qui peut aboutir à distordre ce qu'est l'être humain tel qu'il nous apparaît, l'âme humaine telle qu'on peut la saisir aujourd'hui. Ce qu'il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine l'éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances et plus nous nous ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de tous, et que c'est, en un sens, à force d'étudier l'homme que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître. Justement, ça fait partie, alors ça va être plus clair par la suite, ça fait partie des contresens réducteurs de la pensée de Rousseau. Ça, en gros, le bon sauvage est bon, donc tout le monde de rigoler, quelle naïveté. Si on comprend bien ce que veut dire Rousseau, mais ça se précise ensuite, mais je donne une première réponse. L'homme est le produit d'une histoire, de sédimentation de l'histoire collective. L'homme est devenu un homme de culture. Et donc, encore une fois, il est pris dans une gangue qui sont toutes ces couches, ces alluvions qui l'enveloppent, siècle après siècle, par sa vie collective. C'est-à-dire qu'on est le produit, pas seulement de son époque, on est le produit de toute l'histoire humaine. Et c'est tellement vrai, et même au niveau individuel, aujourd'hui on sait parfaitement, des écrivains ont écrit là-dessus, et les psychanalystes le savent bien. Prenons l'histoire familiale, on est le produit de son histoire familiale. On sait par exemple aujourd'hui que des névroses ou des psychoses profondes d'un individu, c'est-à-dire des blessures de l'âme individuelle, peuvent être le produit pas forcément connu, de faits de générations qui peuvent remonter même à 5 générations antérieures. On le sait aujourd'hui, ça. Des accidents dans l'existence de générations antérieures, des graves traumatismes, des dérives, des blessures, peuvent se répercuter de génération à la 5e génération et des choses vont ressurgir sous la forme de névrose et de psychose. Ça, c'est au niveau individuel. Mais au niveau de la société, c'est le même phénomène que pointe Rousseau. Donc, pour saisir ce qu'est l'homme dans son noyau dur, il faut prendre en compte cela et ne pas se fier à l'apparence que l'homme donne aujourd'hui, qui est toutes ces couches qui se sont ajoutées, qui sont les dépôts de l'histoire individuelle et collective. C'est ça qu'il veut dire. Donc, c'est une méthode. C'est pas que Rousseau prétend que l'homme, au départ, Rousseau ne prétend pas être un préhistorien, un paléontologue ou un ethnologue. C'est pas du tout ça, ça n'est pas. Il prétend pas, en plus à l'époque de Rousseau, toutes ces sciences humaines était à l'état plus que balbutiant. C'est pas son problème. Il ne prétend pas établir une vérité historique de ce qu'était l'homme primitif, le bon sauvage. Le bon sauvage, c'est étranger à Rousseau. C'est une méthode qu'il pose là. D'accord ? Ce n'est pas une connaissance humaine. Ça, il faut avoir en tête ça, autrement, on ne comprend pas Rousseau. Si vous voulez, ce que pose Rousseau là, je ne sais pas si certains ont lu certains textes de cet écrivain contemporain dont on pourrait débattre longtemps, que je trouve intéressant par certains aspects et très répétitif et faible par d'autres, mais peu importe, Pascal Quignard. Pascal Quignard a notamment publié une série de textes qui sont des méditations littéraires, philosophiques, en tout cas des méditations de la pensée, qui s'appelait « Dernier royaume ». Et dans cela, il met en avant la notion de jadis. Tout son effort personnel de pensée à Quignard dans ses textes, et c'est ce que je trouve être le plus intéressant de Quignard, c'est tenter de pouvoir dire l'expérience du jadis, qu'on ne connaît plus. Ce que dit clairement Quignard, c'est qu'on a perdu la condition du jadis et que l'homme contemporain ne peut plus ni savoir réellement ni refaire l'expérience de ce qu'était l'homme du jadis. Et pour Quignard, le jadis, c'est l'homme d'avant la culture. C'est-à-dire qu'un homme de culture comme Quignard dit quoi ? Il dit, dans notre rapport, dans notre expérience de l'élémental, comme dit Lévinas, c'est-à-dire notre expérience des éléments, c'est-à-dire du monde, de la nature, on peut dire ça aussi, aujourd'hui, on a plein de médiations qui font écran. C'est-à-dire qu'on ne peut plus connaître, on ne peut plus faire l'expérience des émotions, des effrois, dit Quignard souvent, des effrois premiers par rapport à notre rapport au monde. On n'a plus de rapport brut au monde. Comme dit Starobinsky, il n'y a plus de transparence, on est dans des obstacles, il y a des voiles. Et tous les voiles qui sont entre notre âme sensible et le monde, c'est toutes les épaisseurs de l'histoire, de la société, de la culture. D'accord ? Et toute la question, c'est que Quignard le traite en termes de fiction littéraire, d'une certaine manière, de méditation littéraire, comment on peut tenter de retrouver cette expérience humaine première du jadis, cette expérience des émois premiers, cette expérience d'un rapport immédiat, c'est-à-dire non médiatisé, à la nature. Aujourd'hui, on est incapable de ça. On est incapable, quand on dit « Ah, c'est beau la nature », en fait, on se trompe complètement sur soi-même. Ce n'est pas une expérience du naturel qu'on fait. C'est une expérience de toutes les couches de représentation qu'on a accumulées ce qu'on dit être la nature. Sans parler que le paysage, aujourd'hui, c'est plus la nature. Il y a une confusion naïve sur les deux. Le paysage, c'est complètement une œuvre artistique de l'humain. C'est pour ça que les écolos primaires sont d'une naïveté et d'une erreur crasse. Le beau paysage qu'on dit être la nature, c'est pas la nature. C'est une composition de peintres. On en a l'expérience qu'on va en Toscane. En Toscane, ce qu'on voit comme paysage, c'est rien sauf la nature. C'est tout sauf la nature. C'est une peinture du XVIe siècle. Bon, bref. Alors, voilà. Donc vous voyez Quignard, par une voie littéraire, et c'est à mon avis la seule chose intéressante chez Quignard, fait la même démarche, mais sous un angle de pensée littéraire, que Rousseau d'une certaine manière. Mais vous savez que la bonne littérature n'est jamais que l'expérience de la pensée par la voie sensible. Hein. C'est pour ça qu'entre littérature et philosophie, pour moi, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la littérature est une expérience de la pensée, la bonne littérature. C'est là-dessus qu'on peut faire une discrimination entre ce qu'on appellerait la littérature conventionnelle ou consensuelle, ou la littérature, par exemple, des romans de gare, la littérature de loisirs, et la bonne littérature, quoi. Alors, dans ce que tu dis, c'est une question très, très, très profonde. Dans ce que tu dis, et Rousseau aborde ces questions-là. Dans ce que tu dis, il y a deux plans différents qu'on peut pas mêler. Il y a l'expérience individuelle du corps, qui est la maladie et la mort. Rousseau en parle de cela. Et il y a d'un autre côté le rapport effectivement au monde tel qu'il connaît des dérèglements. Rousseau, bien sûr, j'ai parlé de l'exemple du tremblement de terre. Et puis il y a le troisième point, on pourrait dire, dans ce que tu as dit, c'est-à-dire les dysfonctionnements humains, c'est-à-dire les guerres, etc., la haine humaine, etc. Ça appellerait des réponses différentes, ces trois points. Sur les guerres n'ont rien à voir avec la nature. Précisément, Rousseau dit que les guerres, c'est le produit de l'histoire et de la société humaine corrompue. Donc les guerres, on ne peut pas assimiler ça à l'expérience de la nature. Ensuite, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, etc., la réponse que fait Rousseau, c'est que c'est pas dissociable de la façon dont l'homme a habité, aménagé, transformé la nature en culture. Ce que je disais tout à l'heure pour ne pas redévelopper, ce qu'il évoque, sa réponse à Voltaire concernant le tremblement de terre de Lisbonne. Alors, sur la question de la souffrance et de la mort, on y reviendra. Sur la souffrance et la mort, ce que dit Rousseau, c'est que notre rapport aujourd'hui à la souffrance et à la mort n'est pas le même que ce qu'il va postuler comme l'homme primitif. Pourquoi ? Parce que notre rapport à la souffrance et à la mort, cette expérience sensible au départ, est complètement surdéterminée. Ça, c'est pas un langage de Rousseau, surdéterminé par toutes les représentations collectives que l'histoire des hommes et de la société a véhiculées. On n'a pas le même rapport. Prenez à la mort, prenez l'exemple des études de ce très bon historien des mentalités qui est Philippe Ariès. On n'a aujourd'hui pas du tout la même. Dans son livre qui s'appelle « L'histoire des représentations de la mort du Moyen-Âge à nos jours », on n'a pas du tout les mêmes représentations de la mort et donc la même expérience de la mort au Moyen-Âge et aujourd'hui. Donc l'expérience de la mort, elle est complètement déterminée par notre culture. C'est pas une expérience naturelle. Et la maladie, c'est pareil. La maladie, c'est la même question que la mort. C'est complètement déterminé par les représentations de la maladie. L'invention de la médecine moderne détermine très largement notre rapport à la maladie, ce qu'est la maladie, par exemple, aujourd'hui. Donc on n'est pas dans un rapport immédiat à la nature, aujourd'hui. Ce que dit d'ailleurs Rousseau, c'est que c'est un état qu'on a perdu. Mais où Rousseau n'est pas nostalgique et encore moins, selon les termes contemporains réducteurs de tout, réactionnaire, c'est que Rousseau ne prétend pas, avec une nostalgie, dire « il faut revenir en arrière ». Rousseau dit clairement « on ne reviendra pas en arrière, on ne connaîtra plus jamais ce qu'était l'expérience de l'homme naturel ». Donc la question n'est pas de vouloir savoir comment il était d'un point de vue ethnologique. On ne peut pas y revenir, donc on ne peut pas en avoir connaissance et expérience. Donc il n'est pas du tout dans un propos de retour à ce qui est le propre de l'idéologie réactionnaire. C'est une idéologie qui est dans l'illusion que le passé était idyllique et il faut revenir au passé. C'était mieux avant. C'est pas du tout ça. Ça, c'est le réactionnaire. Rousseau n'est pas là-dedans. Il dit clairement, lui, il est dans des constats froids d'une certaine manière. Il dit clairement, c'est perdu définitivement. C'est impossible de revenir parce que on est des historiques, on est des hommes de culture, des historiques. Je sais plus où on était. Il est aisé de voir ça. Hein. Il est aisé, aisé de voir que c'est dans ces changements successifs de la constitution humaine qu'il faut chercher la première origine des différences qui distinguent les hommes, lesquels, d'un commun aveu, sont naturellement aussi égaux entre eux que l'étaient les animaux de chaque espèce, avant que diverses causes physiques eussent introduit dans quelques-unes les variétés que nous y remarquons. Je vais revenir après là simplement. Donc il aborde le début de la réponse à la question des fondements des inégalités. Hein. Donc il y a des différences qui s'introduisent. Son postulat, c'est qu'au départ, l'homme de nature ne connaît pas l'inégalité. Alors je sais, on va tout de suite avoir une objection, mais il faut prendre la chose méthodologiquement, mais on va préciser les choses avec Rousseau par la suite. L'objection est immédiatement qui saute aux yeux, ben on n'est pas tous égaux à la naissance. Il y en a qui sont beaux, grands, d'autres qui sont cul-de-jatte de naissance. Rousseau, il a une réponse, vous allez voir, à ça, très simple. Il dit ces différences, elles sont mineures. Elles sont, du point de vue de l'âme humaine, c'est absolument secondaire. Il n'est pas concevable que ces premiers changements, par quelque moyen qu'ils soient arrivés, aient altéré tout à la fois et de la même manière tous les individus de l'espèce. Mais les uns s'étant perfectionnés ou détériorés, ayant acquis diverses qualités bonnes ou mauvaises, qui n'étant point inhérentes à leur nature, les autres restèrent plus longtemps dans leur état originel. Alors là, derrière ça, il y a plein d'aspects qu'on précisera au fur et à mesure. Mais Rousseau, par exemple, pense que, à son époque, les urbains des classes intellectuelles supérieures étaient plus corrompus et dégénérés que le bon peuple des ruraux, des campagnards. C'est pour et Rousseau préfère de loin fréquenter. C'est aussi ce que dit Quignard, entre parenthèses, dans ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Alors, Quignard, je ne veux pas la souligner, ses contradictions à ce sujet, mais parce que Quignard, c'est vrai qu'il a fréquenté et qu'il aime fréquenter les mondains. Hein. Donc, la conclusion de ce paragraphe est « Telle fut parmi les hommes la première source de l'inégalité qu'il est plus aisé de démontrer ainsi en général que d'en assigner avec précision les véritables causes. » Donc, vous connaissez, ça vient après dans le texte, sa fameuse phrase, le premier qui a dit ceci est à moi, donc celui qui a créé la propriété, c'est l'origine de tous les maux et donc des inégalités. Non, Rousseau est plus subtil, l'origine de l'inégalité, c'est ce qu'il dit là, c'est le progrès historique, c'est l'histoire des sociétés, l'évolution progressive qui éloigne d'un point de départ. Au lecteur, ne s'imagine donc pas que j'ose me flatter d'avoir vu ce qui m'apparaît si difficile à voir. J'ai commencé quelques raisonnements, j'ai hasardé quelques conjectures, moins dans l'espoir de résoudre la question que dans l'intention de l'éclaircir et de la réduire à son véritable état. C'est là qu'on voit qu'il pose ça comme une méthode et pas comme une vérité de ce qu'est l'homme primitif. Hein. D'autres pourront aisément aller plus loin dans la même route, dans la même voie méthodologique, sans qu'il soit facile à personne d'arriver au terme, car ce n'est pas une légère entreprise de démêler ce qu'il y a d'originel et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme, et de bien connaître un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger notre état présent. Cette phrase est déterminante, personne ne la lit. C'est la phrase qui permet définitivement en finir avec ce contresens que Rousseau cultive le mythe du bon sauvage. C'est cette phrase qui montre qu'il est dans une méthode comme les mathématiques. Ce qui est que pour construire sa connaissance, il pose comme pierre angulaire un postulat, des axiomes, et je suis désolé, la connaissance humaine, c'est la limite de l'esprit humain, ne peut pas se passer de poser au départ des postulats. C'est quoi un postulat ou un axiome? Bon, c'est proche. C'est une proposition qui n'est pas démontrable par l'expérience, qui échappe par l'expérience, qui échappe à la connaissance des sens, à la connaissance, à l'expérience sensible. C'est quelque chose qu'on pose comme nécessaire pour construire sa connaissance. Et qu'on me prouve le contraire, que Rousseau n'a pas raison dans sa démarche. Aucune connaissance humaine peut faire l'économie d'un axiome ou d'un postulat de départ. Je crois que ça est inobjectable. Mais la science, les mathématiques et la science en général ont besoin du vrai. Les sciences et la mathématique ont besoin du vrai. Par exemple, en mathématiques, on va dire, ça c'est une proposition vraie, oui, ça c'est les apories, c'est les impasses, oui, mais il n'empêche que les mathématiques, la théorie mathématique avance en établissant, en distinguant des propositions vraies et des propositions fausses. D'accord, mais ce que tu dis ne retranche pas le fait que la théorie mathématique a besoin des notions de vrai, de juste. Sinon, ça s'effondre, ça n'existe plus, ça s'effondre. La science et les mathématiques font des démonstrations claires. La science et les mathématiques font des démonstrations qui établissent des propositions vraies. Les mathématiques font des démonstrations qui ne passent pas par la preuve expérimentale. C'est purement une construction de l'esprit. Ce sont des propositions, des démonstrations, c'est-à-dire des propositions établies comme vraies ou fausses ou indécisables, c'est-à-dire les impasses, du point de vue de l'application des règles de la logique humaine. La science expérimentale établit des propositions vraies par l'expérience sensible. Mais il n'en demeure pas vrai que ces démonstrations qui établissent une vérité présupposent au départ les postulats de départ. On peut savoir comment ça fonctionne, c'est pas pour autant qu'on va comprendre pourquoi, les causes. Et c'est ce que dit Rousseau. C'est quand il y a plein de choses, des applications qui existent, techniques, ça fonctionne. On peut dire ça fonctionne, on vérifie que ça fonctionne, c'est pas pour autant que la connaissance qui fait qu'on comprend pourquoi ça fonctionne ait été complètement élucidé. La connaissance des causes du fait ça fonctionne, cette connaissance des causes présuppose ces postulats de départ. C'est, on va buter toujours là-dessus, mais continuons un peu parce que je vois l'heure là. Ça reste sur le même sujet, puis on s'arrêtera juste après ce sujet-là. Mais tant que nous ne connaîtrons point l'homme naturel, c'est en vain que nous voudrons déterminer la loi qu'il a reçue, la loi naturelle, ou celle qui convient le mieux à sa constitution. Tout ce que nous pouvons voir très clairement au sujet de cette loi, c'est que non seulement, pour qu'elle soit loi, il faut que la volonté de celui qu'elle oblige puisse s'y soumettre avec connaissance, mais qu'il faut encore, pour qu'elle soit naturelle, qu'elle parle immédiatement par la voix de la nature. Bon, je ne vais pas insister là-dessus parce qu'après ça nous entraînerait ailleurs. Là, c'est les postulats de la loi naturelle et de la théorie du droit naturel qu'il évoque. La seule chose que j'ajouterais, c'est que ce qui est important là, du point de vue de la philosophie morale, c'est qu'il dit que l'homme pourra être un être moral et la société pourra être juste et morale, à condition qu'elle soit fondée sur des lois qui ne distordent pas la loi naturelle, c'est-à-dire l'ontologie première de l'homme. C'est ça qu'il pose. Mais vous savez, les sciences humaines ne disent jamais rien d'autre que ça. Hein. La sociologie, la les sciences de l'éducation, les sciences psychologiques disent cela. Elles disent... Pourquoi il y a une croyance dans le progrès grâce aux sciences humaines? Parce que toutes ces sciences ont prétendu que c'était la façon dont on éduquait les hommes, la façon dont on les organisait aux sociétés, qui ne correspondait pas à l'être profond des hommes, et du coup, il y avait une torsion, on tordait l'homme dans ce qu'il est profondément, d'où les dysfonctionnements, d'où les inégalités, d'où toute la corruption humaine. Donc, les sciences humaines sont fondées sur ça, et c'est en ce sens-là que Rousseau est bien le précurseur, non seulement de la sociologie, mais des sciences de l'éducation. D'ailleurs, les sciences de l'éducation, qui sont une discipline récente à l'université, commencent très souvent par Rousseau et les Mélins, hein, entre parenthèses, dans le cursus universitaire. Alors, là, il y a une inversion qui est liée à l'idéologie libérale, tu as raison, qui est, on va pas... Le problème, c'est pas d'adapter la société, l'éducation à l'être premier humain, c'est d'adapter l'être humain, et c'est tout le discours sur l'inadaptation sociale ou l'adaptation sociale. Même la science n'est pas détachée des catégories morales. Quand on dit le vrai et le faux, ce sont des catégories morales. Continuons un peu. Laissons donc tous les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu'à voir les hommes tels qu'ils sont faits, tels qu'ils se sont faits. Voilà. Et méditant sur les premières et plus simples opérations de l'âme humaine, j'y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison. Et là, d'emblée, il pose le cœur de sa philosophie humaine, de son morale, de son anthropologie. Deux principes antérieurs à la raison. Antérieure à la raison. C'est-à-dire, il ne va pas fonder sa morale et sa politique sur la raison. Dont l'un, c'est le premier principe, nous intéresse ardemment à notre bien-être et à la conservation de nous-mêmes. Ce premier principe, c'est quoi? Ce qu'il appellera ailleurs l'amour de soi. Ce que, d'une certaine manière, Spinoza appelait le conatus. Ce qu'on peut appeler, en d'autres termes, l'homme. L'être humain vise un but qui est de persévérer dans son être. Voilà. Donc ça, c'est le premier principe. Ce que donc Rousseau appelle l'amour de soi, ou ce qu'il peut appeler l'instinct de soi. Et l'autre, donc le deuxième principe, nous inspire une répugnance toute naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible, et principalement nos semblables. C'est quoi ce second principe? C'est ce qu'il appelle par ailleurs la pitié ou l'instinct de pitié. La pitié, et on reviendra beaucoup sur la pitié. Bon, retenons simplement dans l'immédiat, Rousseau fonde sa philosophie morale et politique, sa dissociable père. Il n'y a pas de pensée du politique sans pensée morale. Voilà. Il la fonde sur des principes qui sont antérieurs à la raison, qui touchent au sensible, qui touchent à l'âme humaine dans ce qu'elle a de dimension sensible, émotionnelle, etc. Retenons cela. Donc on voit bien qu'il limite le champ de la raison du logos. Deuxième chose qu'il faut retenir, Rousseau pense que chez l'homme, dans son être profond, dans son noyau ontologique, ce qu'il appelle l'homme naturel, il y a deux principes qui sont l'amour de soi et la pitié. La pitié, c'est-à-dire l'élan vers l'autre. Laissant donc tous les livres, etc., les deux principes, c'est du concours et de la combinaison que notre esprit est en état de faire de ces deux principes, quoi qu'il soit nécessaire d'y faire entrer celui de la sociabilité, que me paraissent découler les lois du droit naturel. Règle que la raison est ensuite, forcée de rétablir sur d'autres fondements quand, par ses développements successifs, elle est venue à bout d'étouffer la nature. Mais je prends une expérience qu'il m'est arrivé de vivre et que certains d'entre vous ont vécu dans d'autres contextes, dans le métro. Il y a plein de monde dans une rame et brusquement quelqu'un se fait agresser plus ou moins fort par quelqu'un. Personne ne va bouger, mais ce n'est pas la loi absolue. Chacun va être dans l'indifférence, va plonger dans son journal. Il n'a pas vu. On peut dire que là, c'est l'instinct de consommation qui renvoie à l'amour de soi, la peur. Sauf que ça ne rend pas compte. La peur, c'est l'amour de soi. C'est la peur de mourir. Certes, il se trouve, et c'est ça qui est intéressant, qu'il y en a qui interviennent. Moi-même, ça m'est arrivé d'intervenir. J'avais peur. En même temps que j'interviens, je me dis, merde, dans quel guêpier tu t'es fourré? J'avais peur. Et tous les témoignages des gens qui interviennent expliquent que c'est pas qu'ils n'avaient pas peur, ils avaient peur. Sauf qu'ils ont été pris d'un élan qui était antérieur à tout calcul d'intérêt, à tout calcul au qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je risque pas. Si on intervient dans une pulsion première. C'est ce que Polody, par rapport à la philosophie de l'âme de Rousseau, dans son livre, appelle l'être pulsatile. C'est cette pulsion première qui est antérieure à toute raison, à tout raisonnement, à tout calcul qui fait qu'on intervient. Et tout le monde peut faire cette expérience. Tout le monde peut faire ça. On est obligé d'en rester là parce qu'on a trop tardé.